du côté de chez soi, à l'IRBI.
On parle d'expériences autotéliques. Telos en grec veut dire le but. C'est des expériences qui sont un but en soi. Par exemple, Picasso peint une toile, non pas pour gagner de l'argent, mais pour peindre la toile. Et ces expériences autotéliques, quand on les vit, elles nous emportent dans ce qu'on appelle une expérience optimale de flux. C'est un psychologue américain d'origine hongroise qui s'appelle Mihály Csikszentmihalyi qui a bien décrit cette expérience dans laquelle, parce que nous sommes tellement focalisés dans ce que nous faisons, car ce que nous faisons demande généralement de solliciter nos compétences les plus aiguës, et parfois même un tout petit peu au-dessus de nos compétences, nous sommes dans l'action, nous oublions qui nous sommes, on oublie le temps qui passe, on est focalisé, passionné par ce qu'on fait, et c'est vraiment une satisfaction, parce que surtout quand on a fini d'agir, on se sent enrichi, on s'est un petit peu dépassé et on a gagné quelque chose.
Bonjour et bienvenue dans Du côté de chez soi, le médecin et psychothérapeute Thierry Janssen, en préambule d'une émission consacrée à l'art de se réaliser et de se ressourcer à quelques jours des vacances d'été, cette parenthèse hors du quotidien qui induit un nouveau rapport au temps et à l'espace et qui transforme notre univers mental. Chaque jour, nous sommes bombardés par un nombre incalculable d'informations, de signes, de messages qui provoquent une fatigue d'être soi, une fatigue du monde et du quotidien. Et donc, pendant les vacances, nous avons donc théoriquement plus de temps pour prendre soin de soi, pour ralentir, faire un pas de côté à l'abri du fracas du monde. Le temps des vacances peut être le point de départ d'une régénération existentielle et d'une transformation de soi, à condition sans doute de ne pas céder à la pression du loisir obligatoire. Je vous propose quelques éléments de réflexion en compagnie de nos invités. Bonjour Laurence Lemoine.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine et vous proposez ce mois-ci quelques pistes pour s'évader du quotidien, réactiver son énergie et sa créativité. Quel ambitieux programme!
Ben oui, mais c'est un programme dont on a vraiment, vraiment besoin dans ces temps très, très, très secoués où tout le monde est un peu pressurisé jusqu'à l'extrême. Donc on ne sait pas très bien, quand on a du temps libre, on ne sait plus très bien quoi en faire.
Bonjour Michel Lacroix.
Bonjour.
Philosophe, normalien, maître de conférences honoraires des universités. Vous avez notamment publié « Philosophie de la réalisation personnelle » chez Robert Laffont. Alors que veut dire se réaliser? Dans le Robert, c'est devenir ce que l'on a envie, rêver d'être.
Oui, si on devait préciser, on pourrait dire se réaliser, c'est d'abord se percevoir soi-même comme ayant un potentiel fait de désirs, de ressources, d'envie et d'aptitudes, de motivation et de capacités. Donc, se percevoir comme ayant un potentiel et en second lieu, se percevoir comme ayant à faire, d'une certaine manière, fructifier ce potentiel. Je crois que c'est cette dualité qui caractérise la réalisation de soi. J'ai un potentiel, je suis, comme disait Heidegger, une somme de possibilités, je suis une promesse de possibilités et je me propose de tenir cette promesse. Voilà, au fond, en quels termes on pourrait résumer le projet de la réalisation de soi?
Alors, nous reviendrons tout à l'heure plus précisément sur la notion de réalisation de soi. Mais se réaliser, c'est la même chose que se ressourcer. J'ai l'impression que se ressourcer induit l'idée d'un retour vers soi. Se réaliser implique de devenir soi.
Peut-être plus tôt. Et effectivement, moi, j'ai tendance à associer l'idée de réalisation de soi à l'idée de projet, d'un projet de vie. C'est-à-dire faire quelque chose, réaliser quelque chose, au fond. Je me réalise en réalisant quelque chose.
Et les vacances d'été, dans quelques jours, sont un moment privilégié pour amorcer une réalisation personnelle?
Pas forcément. Pas forcément, ça peut être aussi la rentrée, ça peut être lorsque je suis plongé dans l'action, que je tends au maximum le ressort de mon énergie. Je ne crois pas, je serais presque tenté de dire que c'est l'inverse. Peut-être que le moment des vacances, c'est le moment de faire le point et d'entrer dans une démarche un peu de réflexion sur soi-même.
De se ressourcer.
Oui, mais le processus même de la réalisation de soi, il me paraît indissociable d'une forme de dynamisme, en quelque sorte, hein, de bondissement en avant.
Bonjour André Roche.
Oui, bonjour.
Historien, professeur honoraire des universités, auteur notamment d'un essentiel Vacances en France de 1830 à nos jours, en poche chez Hachette Pluriel. À partir de quel moment les vacances sont-elles devenues un temps privilégié pour prendre soin de soi, pour se ressourcer?
Tout dépend un petit peu de quel milieu on est issu. Pour un certain nombre de personnes, je pense à l'aristocratie au XIXe siècle et puis à la grande bourgeoisie à la fin du même siècle, c'est hérité. Autrement dit, il y a des habitudes familiales, il y a un savoir-vivre, il y a un style qui fait qu'on prend des vacances, je dirais naturellement. En revanche, pour d'autres couches de la société, je caricature peut-être, le fait d'accéder au congé est une conquête. Donc c'est quelque chose qu'on tente à gagner alors que précédemment on n'y avait pas droit. Et l'idée que vous soulevez, donc celle de se ressourcer, oui, je suivrai pas tout à fait la démarche qui a été empruntée tout à l'heure par Michel Lacroix, parce que dans ressourcer, il y a l'idée de chercher sa source. Autrement dit, ce que Heidegger, mais avant Heidegger, Aristote l'avait mieux dit, ce qui est à la source, c'est ce qui est potentiel, ce qui est qui n'a pas encore jailli. Se ressourcer, c'est faire jaillir ces eaux profondes de nous-mêmes.
Bonjour Sophie Bobert.
Bonjour Ali.
Cette semaine, vous avez rencontré un philosophe réjouissant, britannique de son état, Alain de Botton, qui a fondé une école assez originale, The School of Life, qui vient d'ouvrir une antenne à Paris, une école qui permet de se réaliser.
Oui, qui promet de vous aider à vous ressourcer et à vous réaliser. Même, je cite, à apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Une école de la vraie vie, en somme, qui après Londres, Rio et Tel Aviv, a choisi Paris pour réaliser son rêve, celui de croiser les disciplines, de marier Tintin à la Joconde, Nietzsche à Bernard Loiseau ou même à Haneke.
Et puis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique mensuelle du côté des études d'Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Vous dites ne rien faire, c'est commencer d'être.
Oui, parce que si vous voulez, en gros, caricaturer notre vie moderne, elle est faite plus d'activisme que d'action. C'est-à-dire qu'on calme notre anxiété fondamentale, qui est sous-jacente à toute notre société, dans un excès d'activité. Et généralement, on a peur de ne rien faire, à tel point qu'on arrive toujours en retard à nos rendez-vous, parce qu'on a peur d'avoir 5 minutes seul à ne rien faire, souvent. Je caricature, bien sûr, parce qu'il y en a qui, au contraire, arrivent une demi-heure en avance par peur d'être en retard. Mais c'est toujours des peurs qu'on gère, on est toujours dans la fuite. Et quand on arrive à ne plus fuir quelque chose, on se trouve soi-même. Donc, c'était un copain qui me disait « Ennuie-toi, tu verras, tu vas t'enrichir ». C'est-à-dire que si on accepte l'ennui de l'inactivité, on se trouve soi. C'est-à-dire que derrière cette angoisse du vide, de la pseudo-activité, on trouve en fait la richesse intérieure et on s'habitue petit à petit à cultiver cette richesse intérieure comme une caverne d'Ali Baba qui est infinie.
L'industriel Christian Boiron, auteur de « La source du bonheur est dans notre cerveau ». Laurence Lemoine, cette théorie de l'inaction, de l'ennui prônée par Christian Boiron, c'est l'amorce d'un ressourcement pour vous ?
Oui, je dirais qu'il faut même commencer par ça, c'est-à-dire se ressourcer, c'est d'abord rompre avec la routine. Et cette routine, elle peut être faite dans une surcharge absolue, trop d'activité. Ça peut être aussi un ennui absolu, on n'a pas assez d'activité qui nous donne du plaisir. Et je dirais qu'effectivement, rompre avec la routine, c'est d'abord accepter de ne rien mettre à la place de cette routine et de se mettre à l'écoute de soi-même, de se mettre à l'écoute de ce qui nous manque, de ce dont on a envie. Et à partir de là, effectivement, des petites voix s'expriment sur les envies qu'on peut avoir de réalisation. Et ensuite, chacun trouve le moyen de ressourcement qui lui convient. Pour les uns, ça peut être l'oisiveté en tant que telle. Pour d'autres, ça peut être le temps de se consacrer à un loisir, à un art. Pour d'autres, enfin, ça peut être le fait de se dépayser, de voyager, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et donc, effectivement, l'opportunité de se confronter à de nouvelles facettes de soi-même dans ce temps de ressourcement, c'est l'amorce de la réalisation de soi, oui.
Michel Lacroix, nous le verrons tout à l'heure, en matière de réalisation personnelle, vous prenez une théorie de l'action.
C'est-à-dire, c'est vrai que je m'inscris un petit peu dans la modernité à cet égard. Si je regarde les choses dans la longue durée, je m'aperçois que, en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, ce qui a été associé à la notion de réalisation de soi, c'était la vita contemplativa, c'est-à-dire la vie contemplative, un certain degré d'inaction, de loisir. C'était réservé évidemment à des classes privilégiées. Sous l'Antiquité, c'est l'homme de loisir. L'école, d'ailleurs, vient du mot scolé, avoir des loisirs. hein, se cultiver, être dans la contemplation, être surtout soustrait à l'obligation de travailler de ses mains et n'avoir finalement comme activité que de se cultiver, de philosopher ou d'aller sur le forum pour discuter des affaires publiques. Jusqu'au 18e, il y a finalement cette idée au fond un peu dominante que la véritable réalisation personnelle, elle est plutôt dans la non-action, dans le loisir. Et à partir du 19e, et ce n'est pas un hasard parce que c'est la société industrielle, c'est l'économie moderne, c'est la mobilité sociale, etc. C'est le mouvement, le dynamisme dans lequel sont entraînées les sociétés actuelles dans lesquelles nous vivons. À partir du 19e, l'accent est mis sur l'action. Et ça, on le voit très bien à travers les grandes figures qui incarnent la réalisation personnelle au 19e, que ce soit Byron, que ce soit Lyotet, que ce soit les grands aviateurs, que Savornian de Brazza, etc. Ce sont des gens qui sont engagés dans l'action. Ce sont le ressort de l'énergie est tendu à l'extrême. Quand j'étais gamin et que je fréquentais les mouvements de jeunesse, on célébrait ces figures-là et c'était des hommes d'action. Des hommes d'ailleurs plus que des femmes. Entre parenthèses, il y avait aussi une dimension de masculinité. Et je pense que au cours du 19e et du 20e, le ressort de l'action a été privilégié par la philosophie également. Regardez Emmanuel Mounier qui crée le personnalisme, qui est une philosophie de la réalisation de soi très aboutie. Et Emmanuel Mounier était un partisan de l'action. Tout ce qui est vie intérieure, tout ce qui est retrait en soi-même, repli dans un lâcher-prise, offusquait la sensibilité d'Emmanuel Mounier. Et peut-être que, et justement, on a prononcé le mot tout à l'heure, on a parlé de l'activisme et finalement de la tendance à finalement à être un peu trop dans l'excès de l'agir. Peut-être que le besoin qui se fait sentir de nos jours, c'est de rééquilibrer les valeurs de l'action et de la contemplation. Donc, ma position, elle est très nuancée. Je m'inscris effectivement dans une philosophie plutôt de l'action. Ma conviction, c'est que on a peut-être plus de chances de se réaliser lorsqu'on est engagé dans des projets qui peuvent être d'ailleurs extrêmement diversifiés, mais qu'il ne faut pas surtendre le ressort de l'action et il faut savoir ménager des plages de lâcher prise, de détente, de retour sur soi-même. Et donc je suis pour un partisan du juste milieu, en quelque sorte.
Laurence Lemoine, le préalable à une réalisation de soi, c'est le ressourcement.
Mais je dirais un peu comme Michel que la réalisation de soi, elle est en effet dans l'action. C'est-à-dire c'est en faisant les choses qu'on découvre de quoi on est capable. Et en soi, c'est aussi très ressourçant. Alors peut-être que le besoin de ressourcement, il se fait sentir quand on est engagé dans des voies dans lesquelles on ne se sent pas tout à fait en capacité de se réaliser parce que ce n'est pas les bonnes directions, parce qu'il n'y a pas assez de plaisir, parce qu'il y a trop de contraintes. Alors voilà, le ressourcement, certaines personnes n'en ont pas besoin tellement elles sont comblées par leur existence. Ouais.
Alors que veut dire se ressourcer ?
Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'expression « revenir à la source de soi ». Se ressourcer, c'est vraiment se mettre à l'écoute des voix intérieures qui nous renseignent sur nos désirs, qui nous renseignent sur nos talents. Et pour chacun, je dirais qu'il n'y a pas de recette pour se ressourcer. C'est à chacun de comprendre quelle est la voie dans laquelle il va le mieux se ressourcer.
Se ressourcer pour échapper à quoi ? À qui ?
À l'asphyxie, à l'atrophie au burn-out, au stress, à une asphyxie de l'être en réalité. Hein. Donc on se ressource parce qu'on veut retrouver un déploiement, un épanouissement, une réalisation de soi.
Mais qu'est-ce qui nous effraie au point de nous pousser à nous évader loin de notre quotidien ?
Ce serait simpliste de dire que c'est la peur de la mort, c'est la peur en tout cas de rien faire de valable de nos existences. Mais il y a de ça, je pense qu'il y a des gens qui sont confrontés à un ennui extrême, quand bien même ils sont absolument débordés. Donc on a cette conscience qu'on a une existence à vivre et que c'est maintenant, et que cette existence, on a besoin qu'elle soit vibrante, qu'elle nous apporte des satisfactions qui sont de l'ordre de l'expression de nos talents, du ressenti de la joie, du partage. Alors voilà, à partir de là, chacun suivra la voie de ressourcement. Je ne dirais pas que se ressourcer, c'est forcément passer par la méditation, mais pour certains, oui. Pour d'autres, ça va être danser de manière effrénée. Chacun sa voie, chacun sa voie.
Oh, quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, chers messieurs ? Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas ? C'est Saint-Nazaire ? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté ?
Là-bas.
Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes. Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas?
André Roche.
Écoutez, je parlerai par rapport aux vacances. Hein. Donc, il me semble que se ressourcer, c'est revenir aux sources, c'est-à-dire à un certain contact avec la nature. Et cette nature, elle a une histoire. Au XIXe siècle, lorsque on se rend à la cure thermale ou à la cure balnéaire, on se ressource parce qu'on va dans l'eau. Autrement dit, c'est l'eau qui, ici, est en quelque sorte l'archétype d'un imaginaire, à savoir qui va nous redonner une force, en se souvenant que ce bain, c'était en fait une immersion. Donc il y avait un maître baigneur qui prenait la personne dans ses bras puis qui la plongeait dans l'eau. Et ce n'était pas l'eau chaude, c'est l'eau froide. Parce que précisément, l'eau froide va revitaliser l'organisme. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, se ressourcer, c'est partir, c'est-à-dire prendre l'air. Et de ce point de vue, que ce soit la cure d'air ou d'autres formes que celle-là, dans la moyenne montagne, donne à l'air, cet autre élément que nous trouvons chez Bachelard, sa dimension de source. Un peu plus loin dans le temps, c'est-à-dire plus proche de nous, en particulier ici pour les ouvriers qui sont des campagnards venus à la ville, se ressourcer, c'est revenir à la terre natale, celle du village. Donc on a déjà l'eau, l'air, la terre. Et puis plus récemment, cette fois-ci dans les années 60, en particulier sous l'effet peut-être du Club Med et autres clubs, ce qui compte c'est le feu, c'est-à-dire le soleil. Quelqu'un qui revenait de vacances et qui n'avait pas, qui n'était pas, alors il ne s'agissait pas d'être allé, il s'agissait vraiment d'être bronzé, on pouvait se demander s'il avait vraiment pris des vacances. Donc ce sont ces quatre éléments que je verrais. Il y a une deuxième voie, si vous me laissez encore un tout petit instant, et qui est celle qu'ont lancée les Anglais avec la notion de tour. Donc le grand tour pour les Anglais passe obligatoirement par l'Orient, c'est-à-dire par Jérusalem. Et se ressourcer dans ce cas-là, c'est revenir aux origines de notre civilisation qui, pour eux, est pensée comme étant la civilisation chrétienne. Et donc, le pèlerinage, en ce sens, est un mode de ressource, car il fait. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça c'est un peu loin, grand tour. Écoutez, aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de gens qui, au moment de leur retraite, se ressourcent en faisant le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, il y a, pour répondre à votre question, effectivement une recherche de ce que nous avons de plus profond une fois que la vie sociale nous échappe ou que nous en sortons.
Michel Lacroix.
C'est vrai que c'est une notion difficile à définir.
Oui.
ce que souligne André Roche sur le rapport à la civilisation et à la culture, c'est un point, je crois, très, très important. On a un patrimoine culturel. Et je pense en particulier en Europe, on a un patrimoine culturel d'une extrême richesse. Et je suis frappé de voir que pour beaucoup de nos contemporains vivant en France, en Europe occidentale, se ressourcer, c'est regarder du côté de l'Orient. C'est très frappant, ce besoin d'exotisme, d'aller chercher ailleurs les sources du bonheur, en quelque sorte, et de l'épanouissement personnel. Là où tu n'es point, là est le bonheur, dit un poète allemand. Et je me demande si cette démarche, on ne pourrait pas la corriger un tout petit peu en incitant nos contemporains à se ressourcer dans leur patrimoine notre patrimoine culturel. Je prends un exemple, les nourritures terrestres d'André Gide. C'est un hymne à la réceptivité, à l'attitude de disponibilité, à la vie intérieure qui est extraordinaire. Relire les nourritures terrestres, c'est d'une certaine manière se ressourcer. Relire Stendhal, les pages sur l'égotisme, l'histoire de Julien Sorel, le panégyrique de l'action qui est prononcé par Mathilde de la Mole dans le Rouge et le Noir, c'est une manière de se ressourcer parce que en me confrontant à ces grandes figures littéraires ou philosophiques, finalement j'ai en miroir le dessin, l'épure de ce que je pourrais devenir. Lire les existentialistes, lire Kierkegaard, la distinction très éclairante que fait Kierkegaard entre le stade esthétique et le stade éthique. Le stade esthétique, quand je veux m'épanouir en quelque sorte, en papillonnant, en puisant à droite et à gauche, en étant multiple, en essayant d'assumer le plus d'humanité possible, mais au risque de me perdre dans cette espèce de zapping. Et le stade éthique, c'est le choix, le baptême du choix, faire quelque chose, avoir justement un projet et suivre une ligne directrice afin de me réaliser. On a un patrimoine qui est, je crois, trop souvent laissé de côté, qu'il s'agisse des arts plastiques, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse de la philosophie. Nous sommes, nous, Européens, les heureux possesseurs d'un patrimoine culturel qui nous permet de nous ressourcer et peut-être qu'on a parfois trop tendance à regarder du côté de l'Orient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des richesses en Orient, bien entendu. Il y a une sagesse, il y a des techniques de contact avec son corps, il y a des techniques de l'extase qu'il ne faut pas négliger, des techniques respiratoires, des techniques de méditation qui sont très en vogue. Mais ne dédaignons pas notre patrimoine culturel propre.
Laurence Lemoine.
Oui, à propos du patrimoine, je dirais que la question pour beaucoup d'entre nous, c'est comment moi je vais me ressourcer. Et j'aime beaucoup cette invitation à revenir à notre patrimoine culturel. Et je dirais aussi qu'il y a à revenir peut-être à son patrimoine propre, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans mon enfance, faisait que j'oubliais toute notion de contrainte, que j'oubliais même la notion du temps, dans quelles activités je pouvais me perdre et connaître l'extase. Et alors à partir de là, effectivement, ça peut aussi permettre de faire des ponts à partir d'activités culturelles qu'on avait enfant. Hein, ça peut être, voilà, on avait un plaisir fou à dessiner, on avait un plaisir fou à faire de la musique. Voilà. Et donc je dirais que ce retour à soi, à son patrimoine d'enfance, permet ensuite de mieux se repérer par rapport à toute l'offre culturelle qui permettrait de se ressourcer.
André Roche.
Alors bien sûr, je partage vraiment tout ce qui a été dit. Mais puisque je suis ici, je suis aussi là pour faire de la critique et j'en ferai une, à savoir qu'il n'est pas certain que ce patrimoine, il ne faille pas à certains moments le contester, le revendiquer. Et je pense ici plus particulièrement à ce livre de Paul Lafargue, « Le droit à la paresse », où il nous montre que, enfin il démontre avec évidemment son engagement militant marxiste, il nous montre que la passion que partagent tous les ouvriers de ce 19e, fin du 19e et début du 20e siècle, eh bien c'est une passion aveugle qui est d'une certaine manière, lui il dit carrément, elle est homicide, quoi, c'est un suicide collectif. Et pour lui, précisément, se réaliser, c'est-à-dire se libérer, c'est paresser. Autrement dit, c'est à dire à un moment donné, écoutez, je cesse, je fais la grève, etc. Et on retrouve la même idée plus récemment chez Dominique Méda dans « Désenchanter le travail », puisque là encore, il s'agit de rompre. Donc, de ce point de vue, si je partage tout ce qui a été dit, je voudrais tout de même ajouter que ce patrimoine n'est pas tout à fait commun et que, par ailleurs, souvent, se réaliser, se libérer, c'est s'y opposer.
Laurence Lemoine.
Oui, alors moi j'adore l'idée de paresse, mais je remarque néanmoins que la paresse, c'est rarement ne rien faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'accorde le temps de ne rien prévoir, de faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, et au bout d'un certain moment, finalement, le temps se remplit de ce qu'on aime faire. Alors ce qu'on aime faire, ça peut être bouquiner, ça peut être compter les pâquerettes, ça peut être se lancer dans des grandes conversations avec la personne qui paraisse à côté de nous. Mais dans ce temps de paresse, en réalité, il y a beaucoup de plaisir qui émerge, beaucoup d'activités qui ne sont pas reconnues comme des activités productives, mais qui sont des réelles activités de ressourcement pour le coup.
Michel Lacroix.
Oui, c'est important cette idée. Ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que ce que j'appellerais les styles de réalisation de soi, ils sont multiples. Il n'y a pas un modèle unique, bien entendu, hein. Je sais pas, du cadre sup qui travaille toute la journée et qui gagne beaucoup d'argent et qui exerce le pouvoir. Non, les styles de réalisation de soi, les styles d'existence sont multiples. Je peux me réaliser à travers le loisir, je peux me réaliser à travers une activité gratuite, je peux me réaliser à travers, le tir à l'arc, le ski, la randonnée en montagne, je peux me réaliser aussi dans mon travail, en gravissant la hiérarchie, en accédant aux plus hautes responsabilités, je peux me réaliser dans ma vie familiale, en tâchant de construire une vie familiale harmonieuse, des relations positives avec mes enfants, mes petits-enfants. Les styles sont multiples et l'erreur qu'on pourrait commettre quand on parle de réalisation de soi ou de ressourcement ou de développement personnel, pour employer un mot qu'on n'a pas encore employé, mais au fond qui est un peu en filigrane dans tout ce qu'on dit, ce serait d'introduire l'idée d'une norme ou d'une hiérarchie entre les styles de réalisation de soi. Et ce qui est passionnant quand on rencontre un individu, c'est justement, pour la première fois, c'est justement de savoir quel est le centre de gravité de cette personne. Évidemment, on veut être en général présent à tous les rendez-vous, on veut réussir sa vie familiale, sa vie professionnelle, ses loisirs, ses lectures, etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a un domaine dominant qui est en quelque sorte l'endroit où la personne sublime le maximum d'énergie, pour parler comme Freud. Et c'est ça qui est passionnant dans la rencontre des êtres, c'est de voir finalement comment l'être que j'ai en face de moi conçoit sa réalisation de soi.
Michel Lacroix, est-ce que le ressourcement est le préalable à la réalisation de soi, au développement personnel ? D'ailleurs, petite parenthèse, le développement personnel est une notion un peu mal vue en France.
Oui. Pour une raison très simple, c'est que le développement personnel s'est un peu compromis dans une espèce de technicisme. Moi, je suis très frappé de voir que pour beaucoup de personnes, et à juste titre, développement personnel signifie technique, stage, séminaire de courte durée qu'on fait du samedi matin au dimanche soir et qui est censé nous garantir l'épanouissement et le rééquilibrage de notre existence comme ça. En quelques heures, je vais inverser le cours de mon existence. Donc, dans le développement personnel, il y a une idée un petit peu de technicisation de la vie intérieure et de la technicisation de mon existence qui philosophiquement me gêne et nous gêne beaucoup. C'est pourquoi on est nombreux à préférer la notion de réalisation personnelle qui en plus a l'avantage d'avoir sous la quille en quelque sorte une tradition plus longue. La notion de réalisation de soi, elle est née à la fin du 18e et au début du 19e siècle avec le romantisme. Elle est la cheville ouvrière de la pensée de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Au fond, qu'est-ce que Hegel décrit si ce n'est la réalisation de l'esprit. Alors,
Lui, il pense esprit collectif, très bien, mais ramenons ça à l'échelle individuelle, il décrit le processus par lequel l'esprit de l'individu se développe, acquiert des déterminations de plus en plus riches et parvient à une prise de conscience complète et riche de soi-même.
Alors, est-ce que se ressourcer, c'est le préalable à réalisation de soi?
Alors, si on appelle se ressourcer le fait de prendre le temps de la réflexion sur soi-même, de la prise de conscience de ce que je suis, de l'interrogation dans une espèce de parenthèse de vie sur, au fond, comment est bâtie mon existence, où je vais. Si on appelle se ressourcer le fait de s'interroger sur qu'est-ce que je veux vraiment dans mon existence et de quoi suis-je capable. Autrement dit, sur mes désirs, d'une part, et d'autre part, sur mes aptitudes. Si je prends le temps de m'interroger sur ce que j'ai envie de faire et ce que je suis capable de faire, alors oui, c'est le préalable de la réalisation personnelle. Pourquoi ? Parce que si je creuse un tout petit peu mes envies personnelles, mes désirs profonds, je m'aperçois que très souvent, ils sont entravés. Ils sont entravés par des blocages, des pensées limitantes, comme disent les spécialistes de la psychologie et de l'estime de soi. Souvent, je m'interdis d'avoir des désirs qui pourtant sont latents chez moi, mais mon niveau d'aspiration, pour parler comme les psychologues, est en quelque sorte abaissé. Il pourrait être relevé. J'ai bloqué mes aspirations à un niveau trop bas. Il en va de même, d'ailleurs, de l'idée que je me fais de mes aptitudes. La plupart des gens considèrent leurs aptitudes comme nettement inférieures à ce qu'elles sont réellement. C'est très intéressant dans les tests de psychologie qu'on peut faire. On s'aperçoit que les gens doutent toujours de leurs capacités pour des raisons qui tiennent à leur éducation, qui tiennent à une espèce de vision péjorative de soi-même, une vision négative. Donc, oui, c'est un préalable, ce retour sur mes aptitudes et sur mes motivations, ce que j'ai envie de faire et ce que je désire faire, il faut que je brise le carcan des déterminismes qui emprisonnent mon désir et qui emprisonnent l'image que je me fais de moi-même pour me libérer et entrer dans un chemin d'accomplissement.
Lorsque nous évoquons la réalisation de soi, le développement personnel, nous pensons spontanément à quelque chose qui grandit en nous, qui croît, qui s'épanouit comme un végétal. Mais pour vous, c'est une image assez trompeuse. Cette idée de réalisation de soi ne colle pas avec la préprogrammation à laquelle est soumise un végétal.
Bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, parce que le propre... Oui, pour quelle raison ? Effectivement, les gens qui emploient le mot de croissance et qui propose le paradigme en quelque sorte végétal ou biologique comme exprimant le mieux l'idée de réalisation de soi, se trompe. Pourquoi se trompe-t-il ? Parce que le propre de l'être humain, c'est d'être toujours dans une situation de choix. À tous les moments de mon existence, j'ai à exercer ma liberté. Je choisis entre A et B, je choisis entre des personnes, je choisis entre des métiers, je choisis entre des lectures, je choisis entre des voyages, des pèlerinages, etc. Je suis en permanence dans le choix, je suis en permanence baptisé, comme disait Kierkegaard, par mes choix. Or, le propre du végétal ou de l'animal, c'est justement que la marge de choix est quasiment inexistante. D'un côté, la liberté, de l'autre, une espèce de préprogrammation. Donc, cette image, elle est faussement évidente, l'image de la croissance organique.
Laurence Lemoine.
Oui, je suis assez d'accord parce que cette idée que la réalisation de soi suivrait cette espèce de croissance organique, ça pose la question de la vocation.
Et du libre arbitre aussi.
Absolument, vocation versus libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent dans rien en se disant je ne sais pas pourquoi je suis fait. Voilà, quelle est ma vocation ? J'ai pas de vocation, je sais pas pourquoi je suis fait. Et donc, elles se cantonnent dans le sentiment d'impuissance. Au contraire, la réalisation de soi, c'est un peu une surprise permanente. C'est-à-dire, on va rencontrer plusieurs expériences de vie. Certaines nous plairont, certaines ne nous plairont pas. Et c'est au détour de ces expériences qu'on découvre un potentiel de réalisation qui n'est pas du tout programmé, qui est une rencontre avec l'existence.
André Roche.
Écoutez, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais à une condition, c'est qu'on ne soit pas dans le réel. C'est-à-dire que le réel, c'est ce contre quoi je dois résister si je veux véritablement me ressourcer. Autrement dit, je crois qu'il faut un effort considérable, enfin du moins c'est comme ça que je le perçois, hein, pour s'appartenir, pour être à soi. Quand on va à l'école, mais toute la journée est remplie d'activités. Même le moment de la récréation est occupé par une activité, quelle qu'elle soit, mais il y a une activité. De même, lorsque nous entrons dans les loisirs, que ce soit dans les colonies de vacances ou dans les centres de vacances ou dans tel ou tel contexte de consommation, je suis attaqué constamment. Donc, pour me ressourcer, le plus gros effort, c'est pas de me laisser aller, c'est précisément de résister violemment à tout ce qui vient de l'extérieur. Je dis ça parce que sinon, on aurait peut-être trop tendance à penser qu'on se réalise de façon continue, comme cela, tout seul, et puis il n'y a plus qu'à choisir. Mais non, il faut d'abord rester. C'est le conflit qui domine la société. La polémos est maître de toute chose.
Comme disait Nietzsche, tout bonheur est dans la lutte.
Voilà. Laurence Lemoine.
Alors, effectivement, on a besoin de résister à un quotidien oppressant qui nous détourne de nous-mêmes. Maintenant, le ressourcement, pour certains, est recherché dans le simple plaisir. C'est-à-dire, je sors de l'action et je fais uniquement ce dont j'ai envie. Je regarde des séries télévisées à gogo, je vais danser, je vais perdre du temps, je vais m'amuser, etc. Je ne suis pas sûre que le pur plaisir soit un ressourcement. C'est-à-dire que pour qu'il y ait ressourcement, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une dimension de développement de compétences nouvelles. Je pense que résister ne suffit pas, encore faut-il remplir cette résistance de quelque chose qui nous ressource.
Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me donner à manger, à coucher? Avez-vous une écurie?
Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant.
Vrai? Vous me gardez? Vous ne me tutoyez pas? Va-t'en, chien, qu'on me dit toujours. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas?
Non, je suis un prêtre qui demeure ici.
Ah, c'est vrai que je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. Vous n'avez pas besoin que je paye?
Non. Gardez votre argent. Combien avez-vous?
109 francs et 15 sous.
Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela?
19 ans.
19 ans. Madame Magloire, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Le vent de la nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur.
Chaque fois qu'il disait ce mot, monsieur, avec sa voix doucement grave, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur à un forçat. C'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse.
Un extrait d'une fiction de France Culture avec Michael Lonsdale et Jean-Marie Vinling. Michel Lacroix, peut-on vraiment se réaliser sans les autres? Cet exemple issu des Misérables est très éclairant en la matière.
Moi, je pense qu'on peut répondre tout de suite par la négative, sans hésiter une seconde. Bien sûr qu'on ne peut pas se réaliser sans les autres. Ça me paraît l'idée d'un solipsisme et d'une auto-réalisation de soi-même par soi-même, en quelque sorte. Et cette espèce de fanfaronnade qui consiste à dire « je me suis fait tout seul sans les autres » ou « je me ferai tout seul sans recourir aux autres », c'est
ici,
psychologiquement...
Le Monseigneur Myriel permet à Jean Valjean d'advenir.
Ah ben oui, alors là, c'est une démonstration éclatante du rôle que joue autrui. Parce que Jean Valjean, au fond, c'est un repris de justice. Il a purgé une peine de 20 ans au bagne. Et il va entrer dans un chemin de réalisation de soi. D'ailleurs, tout le roman Les Misérables peut être lu comme le roman de la réalisation personnelle d'un homme qui vient de très loin et qui va devenir un homme généreux, bon, charitable, qui va faire des choses pour les autres, qui va prendre Cosette sous son aile protectrice. Grâce à qui? Grâce à Monseigneur Myriel, qu'il rencontre dans l'extrait que vous venez de passer. Et il a eu cette chance. C'est la Providence qui a mis sur son chemin cet homme qui fraternel, qui l'a écouté, qui lui a fait confiance. Et je pense que c'est vraiment une leçon que nous donne Hugo. L'idée de se réaliser sans l'amour, la tendresse, l'amitié, l'aide, la confiance, le regard positif d'autrui, c'est totalement chimérique.
André Roche.
Oui, ce que vient de dire Michel Lacroix est tout à fait illustratif de la modernité. Mais je voudrais donner un autre exemple. Je n'ai pas dit qu'il était exemplaire, c'est un autre exemple. Les ermites qui se rendent dans le désert au IVe siècle, en particulier en Égypte, eh bien, ils cherchent précisément à s'isoler, à être totalement seuls, car c'est dans cette solitude que, d'une part, ils pourront défier les démons, et que, d'autre part, ils vont se réaliser eux-mêmes. Vous voyez, je voudrais simplement inscrire le propos dans un contexte à la fois culturel, mais aussi temporel.
Du côté de chez soi, Ali Rebéi.
Il est temps de retrouver le reportage de Sophie Bobert. Sophie, vous avez rencontré un philosophe anglais, Alain de Botton, l'auteur de Petite philosophie de l'amour ou des consolations de la philosophie. Alain de Botton qui vient d'ouvrir une école à Paris, The School of Life.
Ouais, il a réalisé son rêve en fait. C'est une sorte d'université populaire branchée, un lieu qui ne se veut ni hautain ni anxiogène. Une école qui apprendrait, je cite, « comment réaliser son potentiel ou comment booster sa créativité » et qui promet aux participants de se ressourcer, voire de se réaliser. C'est en tout cas l'espoir que nourrissait ce soir-là Clara, une jeune femme de 27 ans, accueillie par Fanny Auger, sa pimpante directrice.
Bienvenue, vous êtes à la School of Life Paris qui a ouvert ses portes il y a un petit peu plus de 3 semaines maintenant, rue Pétrel dans le 9e arrondissement.
Oui, on est dans une petite rue, alors attendez, si on sort, il pleut là, ce soir dans Paris, la lumière est toute grise et pourtant il y a plein de gens qui arrivent alors qu'il est 19h.
Oui, bientôt 19h.
Ils sortent du travail.
Oui, ils arrivent et puis on les accueille chacun à la porte individuellement. On leur souhaite la bienvenue. Puis on leur demande de se mettre à l'aise. Donc on leur offre à boire et à manger. Il y a plein de bonnes choses à manger.
Ah, ça, c'est une sorte de café.
Oui, un petit peu. Mais en fait, les gens viennent nous voir après leur journée de bureau. Et souvent, sont un petit peu fatigués, ont un petit coup de barre, etc. Ils ne s'attendent pas, c'est vrai, à être accueillis de cette manière. Et ça permet de les rebooster parce qu'ils sont repartis ensuite pour 3 heures de cours. Donc, la première demi-heure est consacrée à de la conversation. On fait connaissance, puisque tous les soirs, on a une trentaine d'inconnus, d'individus qui se présentent. Et on se réunit autour d'un petit verre et à manger. Et à 19h30 précise, le cours commence jusqu'à 22h.
Et ce sont des cours de quoi, Fanny, ici ? Parce que vous êtes la directrice.
Oui, alors ce sont des cours sur les grandes questions de la vie. À la School of Life, on apprend un petit peu tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc comment trouver le job de ses rêves, comment trouver sa voie, comment réaliser son potentiel, comment faire durer l'amour, comment avoir de meilleures conversations, comment se reconnecter avec la nature. Oui. On ne vous propose pas des réponses toutes faites, parce qu'il y a une trentaine d'individus qui viennent tous les soirs, qui ont chacun leurs questions à eux et puis leur historique. On leur propose simplement des grands exemples de la culture générale et on leur ouvre des portes, on va leur parler des Beatles et de Freud, on va leur parler de Platon et de Tintin, et on échange sans arrêt, c'est assez nouveau en France, on échange en groupe autour de ces grandes questions de la vie, et voilà, et chacun partira avec, on ne dit pas qu'on va vous donner des solutions toutes faites, mais chacun partira avec peut-être un exercice qui lui a plu, qui l'a aidé, un numéro de téléphone aussi, parce que les gens se rencontrent énormément ici.
Oui, ça drague ici.
Ambiance. Ça drague, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une très très bonne ambiance, les gens se sentent à l'aise, et il n'y a rien de mieux que de voir qu'après le cours, les gens s'échangent de numéro de téléphone ou partent bras dessus, bras dessous, boire un café ou boire un verre avenue Trudaine à côté.
Il n'y a pas de diplôme hein, à la fin de l'année.
Non, non, non. On s'inscrit au cours de manière totalement ponctuelle. Donc, vous pouvez vous inscrire à un seul cours ou, par exemple, comment faire durer l'amour. Vous pouvez venir. Si ça vous plaît, vous reviendrez peut-être à comment réaliser son potentiel ou comment booster sa créativité. Mais non, il n'y a pas de diplôme. On vient, c'est un cours une fois, un shot, j'allais dire, pour justement vous booster et commencer votre quête.
Clara, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce lieu ce soir ? Parce que c'est la première fois que vous venez ici.
Oui, c'est la première fois que je viens ce soir. Moi, j'en ai entendu parler par le site de My Little Paris, Et j'étais très curieuse parce que c'est vrai que c'est des questions que tout le monde se pose et qu'on n'apprend pas à l'école.
C'est-à-dire quelles questions fait tilt en vous ?
Là, par exemple, ce soir, être ou ne pas être en couple, c'est assez d'actualité. On a tous un peu des problématiques personnelles et c'est assez généralisé, surtout à Paris. Et à nos âges, moi j'ai 27 ans.
L'idée pour vous, ce serait davantage de vous réaliser ou de vous ressourcer en venant ici ?
Non, plutôt de me réaliser et d'avoir des réponses à des questions que je me pose et peut-être d'apporter aussi des réponses à d'autres gens et de rencontrer des gens et de partager des expériences et d'avoir des réponses et ouais, plutôt de me réaliser.
C'est bon, vous avez tous tout ce qu'il faut. Installez-vous, le cours va commencer dans une minute. Vous pouvez laisser vos verres là si vous voulez. Le but, c'est d'être à l'aise. Donc, on va laisser un petit peu de place pour les retardataires. Il y en a toujours, comme à l'école. Quelqu'un veut un stylo ? C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut ? Ah, voilà, je vous en prie.
Alain de Botton, vous qui avez publié au Mercure de France il y a quelques années un livre qui s'appelle « L'architecture du bonheur » et qui mettait vraiment en valeur l'importance des lieux dans notre intimité, est-ce que vous pouvez me décrire ce lieu-là ? Où est-ce qu'on se trouve ?
Bah écoutez, c'est un magasin. Pourquoi un magasin ? Parce que les idées ne sont pas seulement pour les universités, pour les écoles, mais ça devrait faire partie de la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, de construire un endroit qui était vraiment au milieu de la vie ordinaire. Ça veut expliquer aux gens que la culture, ça fait partie de la vie quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut mettre
à part,
c'est ça.
Donc c'est une sorte d'université populaire.
C'est ça, absolument, une université populaire. Et c'est quelque chose qui a commencé en Angleterre, ça marchait très bien là-bas, et maintenant on ouvre les portes à Paris, et ça commence très bien ici aussi. Et je crois qu'il y a vraiment une grande soif pour ça, parce que, oui, on parle de ça dans les livres, mais il y a une grande différence entre lire ça dans un livre, lire les grands sujets, les grands thèmes, et de venir dans un endroit où on peut discuter ça avec des amis, avec des étrangers, des gens qu'on ne rencontrerait pas dans d'autres
Oui, situations. Vous aviez écrit quelque part qu'être inaccessible, c'était trop facile.
C'est ça, c'est très facile de se sentir comme un génie, de parler d'une manière tellement compliquée que tout le monde pense que vous êtes très intelligent. C'est beaucoup plus difficile de parler un langage très simple qu'un enfant de 12 ans pourrait comprendre. Mais c'est ça qu'on essaye de faire, de prendre les grands thèmes, de les traduire dans un langage vraiment populaire, facile, mais pas trop simple, pas trop léger. C'est un endroit où moi, j'aurais voulu être, aller quand j'avais 20 ans, 22 ans, même à mon âge. J'ai inventé ça pour moi-même. Je suis, moi, le premier client, parce que c'est les questions qui tracassent tout le monde, et moi aussi.
L'idée majeure, lorsqu'elle est née en vous, il y a quelques années, c'était d'aider les gens à se réaliser ou à se ressourcer ?
Se réaliser, mais ça, c'est un côté un peu américain, ce mot « réaliser », comme si on pourrait, dire que chaque problème avait une solution, que le malheur ne fait pas partie de la vie. Moi, j'ai une vision assez tragique de la vie. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas de réponse magique. Mais en même temps, il faut savoir poser les bonnes questions, les grandes questions, et de comprendre les problèmes. Parce que, oui, la bataille, c'est aussi de comprendre ce qui nous donne de la douleur. Non seulement trouver des réponses, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas de réponse, mais de faire le tour du problème, ça fait aussi partie d'une réponse, on pourrait dire.
C'est de la philo masquée, en fait. Ici, les élèves font de la philo sans le savoir, c'est ça.
C'est ça, comme ils le faisaient en Grèce il y a 2000 ans, parce que, se poser des grandes questions, mais en même temps être au milieu de la vie, c'est ce que Socrate faisait, et c'est Socrate maintenant, c'est sans doute lui qui nous a donné vraiment l'idée de commencer cette école. C'est une école comme on le faisait à la Grèce ancienne.
Et on retrouve cette école aujourd'hui. à Londres, à Amsterdam, à Rio.
À Melbourne, à Rio, à Istanbul.
À Istanbul bientôt.
Oui, et bientôt aussi à Tel Aviv. Donc c'est vraiment, c'est global et ça fait partie maintenant d'une famille de School of Life. Et donc oui, quand on va en voyage, on pourra toujours trouver quelque part où il y a la School of Life, un endroit pour rencontrer des autres et pour parler des grandes questions.
C'était un reportage de Sophie Bobert que je soumets à la sagacité de nos invités, Laurence Lemoine, André Roche et Michel Lacroix. Michel Lacroix qui est un bon élève et qui a pris beaucoup de notes.
Oui, j'essayais de capter au fur et à mesure ce qui était dit. Je trouve qu'il y a des choses positives dans ce projet, et en particulier l'accent mis sur, si j'ai bien compris, sur la culture générale. Et là, j'applaudis. J'applaudis parce que la réalisation de soi, elle est inséparable, je crois, d'un approfondissement de notre culture. Et plus j'approfondirai la philosophie, la littérature, l'art, la musique, plus j'aurai d'outils, en quelque sorte, au service de l'accomplissement personnel. Et là où je, finalement, ce que je déduis aussi de ce que je viens d'entendre, c'est qu'apparemment, pour les fondateurs de cette School of Life, l'école ne fait pas ce travail. L'école, les lycées, nos collèges, c'est bien dommage. J'attends avec impatience le moment où notre éducation nationale va se transformer pour que les adolescents apprennent justement les moyens de l'accomplissement personnel au contact des grands textes de la littérature, de la philosophie et des grandes œuvres d'art.
André Roche.
Écoutez, moi je serai plus bref, hein. En écoutant qu'il y avait des écoles pour tout, que tout pouvait s'enseigner, que tout pouvait être maîtrisé par des maîtres, j'ai repensé à un passage du Diable au corps. Je crois qu'il dit quelque part « La jeunesse est niaise, car elle ne sait pas paresser. »
Laurence Lemoine.
Moi, je ne suis pas encore allée faire un tour à la School of Life, j'irai certainement. Ce à quoi j'ai été sensible dans l'explication qu'il donnait. Alors c'est étonnant cette réticence à dire qu'on est là pour faire de la philosophie, qu'on est là pour faire de l'enseignement, comme si il fallait absolument avancer masqué par rapport à ces choses-là. J'étais un petit peu surprise. Mais ce que j'ai apprécié dans le projet, c'était de favoriser le débat collectif. Et c'est effectivement ça qui manque aussi beaucoup à l'école. Et je trouve que ça fait une jolie transition à la question qui était posée précédemment. Est-ce qu'on a besoin des autres pour se réaliser? Je pense qu'effectivement, on a vraiment besoin de la confrontation de points de vue et d'expériences pour trouver un sens personnel à son existence, oui.
Et The School of Life qui trouve un prolongement dans les librairies, en poche, chez Pocket, avec trois ouvrages qui viennent de paraître. Pour terminer, quel chemin avez-vous emprunté pour vous réaliser, Michel Lacroix ?
C'est une question très, très, très personnelle. Et je pense, quand je regarde rétrospectivement mon existence, mon âge m'y autorise, je pense qu'il y a deux choses qui ont été un petit peu ma préoccupation. C'est d'abord d'être dans le monde des idées. Voilà, j'ai exercé une profession qui est en rapport étroit avec les idées, puisque je suis enseignant de philosophie. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages et j'ai passé le plus clair de mon existence dans le monde des idées, de l'argumentation, etc. Et d'autre part, la vie familiale. C'est vrai que la tâche éducative, comme père et puis maintenant comme grand-père, m'a toujours enthousiasmé.
André Roche.
Alors, c'est plus compliqué, en ce sens qu'il me semble que je me suis réalisé parce que j'ai vécu plusieurs fois. Si vous le savez, comme James Bond, il meurt deux fois ou il vit deux fois. Il y a eu d'abord le moment où j'ai beaucoup aimé les sports, donc j'ai fait le professeur d'éducation physique. Et puis ensuite, c'était la philo et puis c'est devenu l'histoire. Il me semble que se réaliser, c'est rompre. Voilà.
Laurence Lemoine.
J'ai un parcours qui semble résonner avec le vôtre, parce que moi j'ai eu une enfance nomade, je passais 3 ans-ci, 3 ans-là, donc pour moi la réalisation elle a jamais été dans l'engagement dans une voie unique, j'avais toujours l'impression qu'il y avait beaucoup d'expériences à vivre dans l'existence et qu'effectivement passer de l'une à l'autre était enrichissant. Alors ça a été aussi un peu une entrave, parce qu'à un moment il faut s'engager dans une voie pour se réaliser. Et là, dans cette logique d'éternel recommencement, je me ressource ou je me réalise de nouveau dans la musique.
Merci beaucoup Laurence Lemoine, journaliste à Psychologie Magazine. Le dernier numéro, 5 pistes pour se ressourcer, est disponible en kiosque. Merci André Roche. On peut retrouver Vacances en France de 1830 à nos jours chez Hachette Puriel. Et puis vous venez de signer une belle enquête sur les vacances dans le magazine La Vie. Merci Michel Lacroix. Votre philosophie de la réalisation personnelle est publiée chez Robert Laffont. Bonjour Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Alors nous vous retrouvons chaque mois pour un éclairage sur une série d'études en lien avec notre bien-être. Qu'avez-vous choisi cette semaine ?
Alors cette semaine, je vais vous parler d'une étude danoise qui est parue dans The Journal of Epidemiology and Community Health, qui laisse entendre que les relations stressantes peuvent écourter l'espérance de vie. Les chercheurs ont suivi 9870 personnes de 2000 à la fin 2011 et les ont soumises durant cette période à des questionnaires psychologiques. Il en ressort que les conflits sont associés à un risque de mortalité plus élevé par cancer, maladies cardiovasculaires, accidents et suicides. Les ennuis, les demandes incessantes et continuelles, les disputes semblent également néfastes pour la santé, surtout quand elles viennent du partenaire et des enfants. Les hommes et les personnes sans emploi qui ne bénéficient pas du soutien d'un réseau social y seraient plus sensibles, a souligné Rick Lund, chercheur en santé publique à l'Université de Copenhague et auteur de l'étude. D'autres enquêtes ont déjà fait part de l'influence du stress sur la santé. Celle-ci montre particulièrement le rôle de l'entourage proche sur notre longévité.
Alors est-ce que le fait de favoriser les aspects positifs d'une relation nous protégerait des maux dont vous venez de nous parler ?
C'est ce que laisse suggérer l'étude. En revanche, dire qu'il faut mettre par exemple un terme à toute relation négative est certainement hâtif, car des études ont montré que l'isolement est encore plus mauvais. À l'inverse, ce mariage serait bon pour la santé. Il y aurait moins d'accidents cardiovasculaires chez les personnes unies par le mariage que chez les célibataires, les veufs ou les divorcés, selon une récente étude réalisée par des cardiologues américains. Auparavant, en 2009, une étude internationale avait montré que la relation maritale contribuait à réduire les risques de dépression et d'anxiété, tandis que les séparations et le divorce aggravaient les risques de problèmes mentaux. Pour autant, aucune de ces études ne devrait vous amener à vous précipiter à la mairie ou devant le juge. Comme le souligne Howard Friedman, professeur de psychologie de l'Université de Californie, dans son blog Secret of Longevity sur le site Psychology Today, il vaut mieux rester prudent dans les conclusions que l'on peut tirer d'études montrant l'impact de facteurs relationnels ou psychologiques sur la santé. Car, dit-il, tout ne doit pas être mis au même niveau. Le tabagisme, par exemple, est une cause de cancer de poumon, l'obésité d'une moins bonne santé, et le fait de moins fumer ou de perdre du poids permet réellement d'aller mieux et d'augmenter son espérance de vie. En revanche, le bonheur et la santé sont certainement liés, mais le bonheur ne garantit pas une bonne santé. Cela pour dire que si l'on veut agir sur sa santé, les priorités sont certainement d'éviter de fumer, de bouger et de manger, équilibré, mais aussi d'avoir des liens sociaux. En revanche, pas forcément de vivre dans une famille ricorée. Si résoudre les conflits familiaux ou de couple est un facteur de bien-être, cela ne signifie pas qu'il faille céder à l'injonction du bonheur à tout prix.
Merci beaucoup Aline Perraudin. Nous pouvons donc retrouver cette étude du Journal of Epidemiology en ligne, c'est ça ?
Elle est en ligne, ça fait partie du BMJ, du British Medical Journal, et on peut y accéder, je pense qu'elle sera sur votre site.
Merci beaucoup Aline Perraudin, à très bientôt.
Merci.
Vous Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur franceculture.fr et nous suivre sur Twitter et Facebook. Du côté de chez soi a été produit par Ali Rebéi, réalisé cette semaine par Peyri Legras, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille, une émission préparée et organisée par Pascaline Bonnet. Bonne semaine à l'écoute de France Culture.